débuter cette conférence, cette étude, je me souviendrai toujours, parce que ça m'a marqué au plus profond de moi-même, de cette femme dans les années 79 qui était issue d'une famille chrétienne, qui était membre d'une église évangélique, et cette pauvre femme avait été humiliée, elle avait été manipulée, elle avait été détruite à cause d'une distorsion du message de l'Évangile. Bien que Jésus soit venu pour apporter une bonne nouvelle, pour nous rendre libres, on avait inculqué à cette femme qu'elle devait travailler de plus en plus fort pour devenir ce qu'ils appelaient une bonne chrétienne. Puis, ayant échoué dans ses tentatives sincères pour atteindre ce but, on l'avait jugée, étiquetée, indisciplinée. Cette femme avait fait d'énormes efforts, mais on estimait que ses efforts n'étaient pas sincères. Et comme ses efforts n'étaient pas sincères, on avait dit à cette femme, tu n'es pas sauvée. Elle avait essayé, m'avait-elle dit en pleurant, à plusieurs reprises, de mettre en pratique ce qu'on lui avait prescrit, lire la Bible davantage, prier plus souvent, faire de plus en plus de sacrifices financiers. Elle m'a dit, au bout de quelques jours de travail, que finalement les trois quarts de son salaire, elle le donnait à l'église. Mais le pasteur lui disait que cela ne suffisait pas. Et finalement, cette femme épuisée était venue chercher de l'aide. Et elle était tellement convaincue que moi aussi, je la jugerais, qu'il lui était presque impossible de demander cette aide à une autorité spirituelle. Et en me regardant, elle tremblait, elle pleurait, et c'était comme si elle me donnait l'impression que j'allais la frapper à un moment ou à un autre. Elle était terrorisée. J'étais jeune pasteur à l'époque, et ce qui m'a profondément marqué, c'est que la bonne nouvelle était devenue pour elle une mauvaise nouvelle. Le message de vie avait été tellement tordu que ce message avait anéanti cette femme. Elle n'avait plus aucune compréhension du concept de la grâce. Elle n'avait plus aucune compréhension du concept même de l'Église. Pour elle, l'Église n'était plus un lieu sécurisant. Et en tant que pasteur, je me tenais là devant elle, représentant celui qui avait blessé son âme. Je suis pasteur depuis 35 ans et je me fais un devoir depuis 35 ans de prêcher que la grâce de Dieu, c'est la seule source de notre espérance. Non seulement c'est la seule source de notre espérance, mais la seule source de vie et de force spirituelle. Et ma prière va vers ceux ou celles qui ont ce matin un cœur brisé. Parce que je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de réconforter les affligés. Cette femme, que nous appellerons Germaine, y a-t-il des Germaines parmi nous ce matin ? Qu'elle lève la main. Il n'y a pas de Germaine. Nous l'appellerons donc Germaine. Cette femme que nous appellerons donc Germaine m'avait ouvert les yeux sur la réalité que produit une spiritualité malsaine dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, mais également, et c'est peut-être beaucoup plus grave, dans la vie des enfants. Christ nous a appelés à la vraie liberté et au repos. Et je constate, malheureusement, que ce problème est bien réel. Et nous pouvons bien, ce matin, parler d'abus spirituels. Mais qu'est-ce qu'un abus spirituel ? Nous avons regardé ensemble comment le récit de Germaine illustre ce concept. Essayons maintenant, si vous le voulez bien, de donner une définition adéquate à ce terme. Voilà la définition de ce qu'est l'abus spirituel. C'est le mauvais traitement infligé à une personne ayant besoin d'aide, d'encouragement et de soutien. Ce type de traitement, au contraire, contribue à affaiblir ou détruire sa vie spirituelle. Alors, vous pouvez le constater, c'est une définition qui est assez large. Essayons de la raffiner en y ajoutant quelques autres définitions fonctionnelles. L'abus spirituel se manifeste lorsqu'une ou un dirigeant utilise sa position d'autorité pour contrôler, dominer une autre personne. Et cela implique très souvent une violation des sentiments, une violation des opinions des autres, sans se préoccuper de ce qui en résultera dans la qualité de la vie de la personne venue chercher de l'aide, de ses émotions ou de son bien-être spirituel. À l'intérieur de cette application, la force est utilisée pour rehausser la position dominatrice et pour répondre aux besoins du dirigeant, au détriment, évidemment, de la personne qui nécessite son aide. C'est exactement ce qui s'est produit dans le cas de Germaine. L'abus spirituel peut se manifester lorsque la spiritualité est utilisée comme moyen pour forcer les gens à obéir à une certaine norme spirituelle. Car il faut le savoir, dans certaines églises, un bon chrétien, une bonne chrétienne doit s'habiller comme cela. Elle doit venir à toutes les réunions, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Il y a des normes spirituelles, ce qu'on appelle un moule, et cette personne doit entrer dans ce moule. Et cela encourage, on le voit bien, la promotion d'actes religieux qui ne tiennent aucun compte du bien-être des autres, mais qui sont destinés à prouver le niveau spirituel de l'individu. Alors, à quel genre d'acte religieux faisons-nous référence ? À quel moment une personne en position d'autorité outrepasse-t-elle les limites de sa tâche. Prenant la place d'un juge, au lieu de lui porter de l'aide. Eh bien, c'est assez compliqué et c'est assez long. Et je n'ai malheureusement maintenant que 3/4 d'heure pour l'expliquer, mais néanmoins, on va essayer de l'expliquer en essayant de voir ensemble ce qu'est un abus spirituel. La personne qui a un besoin, qu'il s'agisse d'un besoin d'information, de dialogue, d'encouragement, d'acceptation ou de conseil, a reçu le message qu'elle était inférieure spirituellement ou que sa spiritualité était défaillante. Tu n'arriveras jamais là où tu veux aller parce que ta spiritualité est défaillante. Tu n'es pas une assez bonne chrétienne. Tu n'es pas un assez bon chrétien. Et pour arriver aux normes, tu dois arriver à te discipliner. Tu dois arriver à faire ceci ou à faire cela. L'abus spirituel peut être manifesté autant envers un dirigeant qu'envers un membre de la congrégation. Nous ne désirons attaquer d'aucune façon les responsables des autorités spirituelles. Ce que nous voulons, c'est exposer un phénomène qui est à la source de beaucoup de blessures. Les conséquences de l'abus spirituel sont généralement similaires. L'individu qui est livré à lui-même, accablé par la culpabilité, accablé par la condamnation, accablé par la confusion, a du mal à s'estimer. Elle a du mal à croire que Dieu l'aime. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Mais en y réfléchissant bien, posons-nous cette question. Est-ce que le mot « abus » n'est pas trop fort ? Si vous prenez le temps de considérer le phénomène que nous traitons actuellement sous un angle différent, vous comprendrez très vite pourquoi j'ai choisi d'utiliser le terme « abus spirituel ». Je suis pleinement conscient que ce terme peut susciter quelques controverses. Mais je suis convaincu, à la lumière de ce que j'ai vécu, à la lumière de ce que j'ai vu, à la lumière de ce que j'ai entendu, que nous pouvons, ce matin, parler d'abus spirituels. Plusieurs d'entre vous connaissaient sans doute cette approche en relation d'aide que nous appelons l'approche systémique ou approche du système familial. Puisque l'Église devrait être à l'origine une grande famille, et puisqu'elle est la famille de Dieu, nous croyons que nous pouvons apprendre des leçons valables en considérant les bases d'un cadre familial en bonne santé, de même que les conséquences de son mauvais fonctionnement. Dans un cadre familial fonctionnel et en bonne santé, les parents remplissent un rôle d'autorité, de manière non seulement à pourvoir, mais également dans le rôle d'apprentissage et de communication avec leurs enfants. Et les parents affirment ou affermissent ainsi la personnalité de leur enfant tout en faisant l'acquisition d'une meilleure habileté pour attribuer des conséquences appropriées aux comportements répréhensibles et pour enseigner et encourager les comportements qu'ils veulent voir chez leurs enfants. Ainsi, nous parents, il n'est pas rare de dire à nos enfants « Tu ne peux pas faire cela. Tu ne dois pas faire ceci. » En leur expliquant évidemment pourquoi ils ne doivent pas le faire. Il est vrai qu'un bon parent peut commettre également des erreurs. Mais est-ce que cela fait de lui un parent abusif? Évidemment, il doit remplir son rôle de parent. Il doit combler les besoins de ses enfants. Mais il est aussi un être humain. Et en tant qu'être humain, il doit apprendre et il doit grandir. J'ai beau prendre des renseignements, j'apprends moi-même à faire grandir mon enfant. C'est un apprentissage. D'un autre côté, lorsqu'un parent utilise sa position pour forcer un enfant à se surpasser, lorsqu'il se sert d'un idéal trop élevé pour juger ses actions, il profite de son autorité ou sa position d'autorité pour la gratification de ses propres besoins. On le voit bien dans une émission de télévision que vous avez sans doute vue, on voit bien tous ces parents qui forcent leurs enfants à devenir un champion du tennis. Et l'enfant a beau être fatigué, il a beau être malade, peu importe, il ira s'entraîner des heures et des heures pour taper dans la balle. Le rêve de ce père, c'est évidemment de voir son enfant être un champion. Et peu importe, si l'enfant l'accepte ou pas, c'est ce que le père a décidé. Eh bien, malheureusement, dans certaines églises, c'est un peu pareil. Peu importe les besoins des paroissiens ou des paroissiennes, ce que le pasteur ou l'autorité va chercher, c'est de voir ces personnes atteindre le but qu'il s'est donné. Et on s'aperçoit que la famille, qui devrait être un lieu sécurisant, devient alors un milieu dangereux. De la même manière, ceux qui occupent des postes d'autorité spirituelle vont exploiter la confiance des gens. Et le problème est très simple, c'est que très souvent, quand vous faites part aux dirigeants que vous n'êtes pas d'accord, le dirigeant va aussitôt vous dire « Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas avec moi que tu n'es pas d'accord. C'est avec Dieu. » Et le problème se trouve réglé. Parce que toute parole ou toute action qui cherche à diminuer, attaquer ou affaiblir une autre personne pour se gratifier, élever sa position ou ses croyances, tout en détruisant les autres, constitue un abus spirituel. Alors, j'aimerais, avant d'aller plus loin, dire que ce n'est pas une chasse aux sorcières. On a pris le temps de définir ce qu'est l'abus spirituel. Il s'agit, répétons-le, d'un phénomène très actuel, que l'on retrouve non seulement dans les sectes, mais c'est triste à dire aussi dans le corps de Christ. Et nous tenons à ce que vous sachiez aussi discerner ce que l'abus spirituel n'est pas. Parce qu'il est aussi primordial de comprendre ce qu'il est que ce qu'il n'est pas. D'accord ? Chacun d'entre nous est sujet involontairement à oublier la grâce fortifiante de Dieu pour laquelle nous devons vivre la vie chrétienne. Par conséquent, comme nous sommes oublieux, nous avons, il faut le dire, chacun d'entre nous, une tendance d'agir ou de parler de façon à commettre des abus spirituels à l'égard des autres. Quelques points importants que nous devons garder à l'esprit. Il n'est pas abusif de la part d'un dirigeant spirituel qui a la responsabilité de prendre une décision finale, de procéder selon le meilleur de son jugement et choisir de, contrairement à l'opinion peut-être de l'Église, de prendre une décision contraire. Il est toutefois, il me semble, abusif d'utiliser une divergence d'opinion pour dévaloriser la spiritualité d'une autre personne. Comme il n'est pas abusif de la part d'un chrétien, qu'il soit ou non en autorité, de confronter un autre chrétien à cause d'un problème, d'un mauvais comportement, d'une erreur qui doit être corrigée. Il est clair cependant que le but de cette intervention n'est pas d'humilier. Si le but de cette intervention est d'humilier, là il y a un abus. Mais le but ne doit pas être d'humilier, mais d'amener le discrédit sur une personne, mais de contribuer à sa guérison ou de contribuer à sa restauration. Il n'est pas non plus abusif de demander à un dirigeant ou un responsable de ministère de quitter son poste à cause d'un problème émotionnel, physique, mental ou spirituel. Encore là, l'idée, c'est d'aider cette personne à recevoir des soins nécessaires de manière à ce qu'elle puisse reprendre son poste plus tard ou reprendre sa position si cela s'avère être une action adéquate. Comme il n'est pas non plus spirituellement abusif ni inapproprié d'être en désaccord sur des questions doctrinales ou sur tout autre sujet, même en public. L'idée ici, c'est d'être respectueux envers l'autorité. Tout le monde n'est pas d'accord sur le millénium. Vous avez dans des églises des post-millénaristes, des pré-millénaristes et des amillénaristes. Est-ce que nous allons entrer en guerre contre ceux qui n'ont pas la même idée que nous sur le millénium ? Évidemment que non. L'idée, ce n'est pas de dire, puisque tu n'es pas prémillénariste, tu n'es pas chrétien. C'est quoi ? Ah oui, alors le prémillénariste, oui, ça c'est autre chose alors. Alors c'est sur le millénium, ceux qui pensent que la venue de Jésus-Christ a lieu après, avant, etc. Hein ? Comme il n'est pas non plus abusif d'observer un certain décorum, par exemple sur la tenue vestimentaire, cela devient abusif lorsque ceux qui ne partagent pas la même conviction sont dévalorisés spirituellement ou humiliés. Ce que nous tentons ici de démontrer, c'est que l'abus spirituel, c'est un piège. Et ceux qui propagent l'abus spirituel sont aussi prisonniers de leur croyance malsaine. Ils sont aussi prisonniers de leur action. Et donc, il est important de voir et de comprendre que l'un des objectifs de cette étude, c'est de vous aider à examiner premièrement notre propre conception du christianisme et de savoir, et c'est important, si notre vie en tant que chrétien est imprégnée de la grâce. Car ce n'est pas pour rien, me semble-t-il, que le protestantisme au XVIe siècle a insisté sur la grâce. Sola gratia. Il y avait évidemment le sola scriptura, seules les Écritures, mais il y avait le sola gratia, seule la grâce. L'apôtre Paul écrit ceci, Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. La racine de tout cela, c'est que trop de gens de notre époque ont oublié l'importance du prix payé, le sang de Jésus-Christ. Jésus a payé le prix, son sang a coulé pour que nous devenions libres. Car vous et moi, nous avons été appelés à une vie spirituelle fondée sur le don gratuit de la grâce. C'est Éphésiens 2:8. Et les œuvres qu'on nous demande d'accomplir, ou que ces soi-disant pasteurs ou autorités spirituelles nous demandent d'accomplir, les œuvres que nous devons accomplir sont seulement, je dis bien seulement, celles que Dieu notre Père a préparées pour nous. C'est le verset 10 d'Éphésiens chapitre 2. Et c'est seulement, je dis bien seulement, c'est seulement à Dieu que nous aurons à rendre des comptes. Nous aurons à rendre des comptes à Dieu de ce que nous aurons fait en son nom ou de ce que nous n'aurons pas fait ou de ce que nous n'aurons jamais voulu faire. Relisez pour cela Matthieu 25. Alors, comment l'abus spirituel se produit-il ? Comment un environnement destiné à rendre les gens libres peut devenir un lieu d'esclavage ? Existe-t-il dans les Écritures qui nous permettent de comprendre comment ça fonctionne cette dynamique ? Y a-t-il des signes qui peuvent nous aider à identifier l'abus spirituel qui se cache derrière la colère, le manque de confiance, la peur, le doute, les problèmes relationnels. Nous désirons explorer maintenant ces questions fondamentales. Et nous essaierons aussi, dans la mesure du possible, d'aller un peu plus loin et de regarder, mais je doute que nous ayons le temps, et là on retournera vers le conseil presbytéral de l'Église, pour savoir si on peut organiser une deuxième conférence sur comment changer un milieu religieux abusif en milieu sécurisant. Parce que je doute qu'on ait le temps ce matin. Ce que je voudrais dire, c'est que le vrai christianisme nous conduit à une vraie liberté. À une liberté de ce que j'appelle les œuvres mortes, des systèmes religieux et de tous les efforts humains qui ont pour but de mettre en valeur la grandeur de Dieu ou de mériter la faveur de Dieu. Dieu est grand et ce que Dieu te demande, c'est d'être aussi grand que lui. C'est un discours qu'on entend fréquemment dans ces milieux. Dieu est un être exigeant. Ne crois pas que tu vas pouvoir t'en sortir comme cela. Ce que Dieu demande de toi, c'est des efforts. Et je crois qu'il est grand temps pour nous aujourd'hui, ou en tout cas pour ceux qui ont été abusés, de se débarrasser de ce système de joug religieux et de comprendre, et non seulement de comprendre, mais aussi d'accepter et de recevoir la grâce de Dieu. Alors, comment ça commence dans une église? Eh bien, c'est très simple. Ça commence avec un mot qu'on appelle le légalisme. Ce que nous appelons ici le légalisme, c'est une forme de perfectionnisme religieux centré sur la mise en pratique ou sur la répression de certains comportements. Les gens apprennent ainsi à mériter l'acceptation de Dieu à leur égard, fondée sur leurs œuvres, plutôt que sur la grâce et le don gratuit accordé par Jésus. Posons-nous sérieusement la question : pourquoi les dirigeants du temps de Paul et de Jésus cherchait-il à propager cet enseignement légaliste? Pour simplement avoir raison? C'est beaucoup plus sérieux que cela. Regardez Galates 6, 12 et 13. Regardez ce texte. Il est assez intéressant et important. Ça, c'est la version du semeur. On va lire dans la version du semeur. Il y a une autre version intéressante qui est beaucoup plus directe, mais on va garder celle-ci. Vas-y, tu peux la remettre, Philippe. « Ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort du Christ sur la croix. Car ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi, eux non plus. » S'ils veulent vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter de vous avoir. On va garder ce texte. Mais il y a une autre version qui dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vont vous contraindre. » Et ça se termine par « Ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier devant les hommes. » Et l'idée, c'est cela. Vous voyez, accepter le fait de vivre avec Jésus comme seule source d'acceptation divine, c'est un acte, à l'époque de Jésus et de Paul, c'est un acte de bravade envers ceux qui recherchent cette approbation sur la base de leur propre comportement religieux. Et ça explique bien pourquoi vous ressentez toute cette pression à accomplir des actes religieux à l'intérieur d'un système abusif. Le problème, c'est que si vous vous soumettez à ces exigences, vous faites bonne apparence, les dirigeants pourront continuer à justifier leur manipulation en évitant de se soumettre à la croix de Christ comme unique moyen pour jouir de la faveur de Dieu. Mais pire que cela, regardez le texte, cela leur permettra de continuer à juger les autres au lieu de se juger eux-mêmes. Vous voyez le système? Et donc, c'est logique, ils pourront continuer à s'enorgueillir ou à rehausser leur sentiment d'estime de soi, déjà amplifié par tous vos accomplissements religieux. Nous voici devant des dirigeants religieux qui cherchent à combler leurs propres besoins spirituels. Et ils le recherchent par le biais des accomplissements religieux de leurs disciples. Tout cela, évidemment, est déguisé dans un langage saint. C'est-à-dire, on va vous parler de vivre une vie sainte, d'aider les autres à vivre une vie sainte, de vivre en état de sainteté. Quel est le degré de ta sainteté ce matin ? Dans sa lettre, regardez, Paul décrit le dommage que tout cela avait causé aux Galates. Et si vous regardez Galates chapitre 1, verset 7, l'apôtre Paul va employer plusieurs mots et plusieurs verbes pour nous faire comprendre le pourquoi. Alors, regardez ce texte, Galates 1, 7. Tu l'as ? J'ai oublié de le mettre ? Ah si, donc c'est pas grave, on va le, alors, je vais le lire, Galates 1, 7. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre. Galates 1, 7, je lis. On peut commencer au 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel même annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Ok, on va prendre ce texte. Paul emploie le mot troublé, parasantes en grec, dont la signification originale se situe entre un état de confusion mentale et l'obligation de commettre une trahison. Dans le chapitre 2, au verset 4, Paul qualifie ce faux enseignement de moyen d'asservissement. Au chapitre 3, verset 1, il utilise le terme « fasciné ». Qui donc vous a fasciné ? Qui implique qu'il s'agissait comme si on leur avait jeté un sort. Au chapitre 4, verset 29, il qualifie de persécution ce que les Galates avaient subi. Et dans le chapitre 5, verset 7, il ajoute qu'on les a empêchés d'obéir à la vérité. Finalement, au chapitre 4, verset 15, Paul pose cette question à la fois triste et révélatrice, tout à fait actuelle pour nous aujourd'hui. Pouvez-vous maintenant me dire où est l'expression de votre bonheur ? Je vous écoute. Où est l'expression de votre bonheur ? Et les gens qui sont victimes d'abus spirituels se sentent tellement fatigués, tellement dépréciés du fait que leur vie est constamment manipulée par les attentes des autres, qu'ils ont perdu le sentiment que Dieu les aime. Ils ont perdu le sentiment que Dieu veut les bénir. Et Paul utilise un langage très vif pour décrire ses abus et sa manière de dénoncer, révèle cette espèce, je dirais, de flamme qui brûle dans son cœur pour les Galates. Il va dire au chapitre 1, mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Lorsque quelqu'un quitte l'armée sans permission, officiellement, il devient un déserteur. Le mot grec pour déserteur n'a pas la signification de s'absenter, mais plutôt de pris en défaut dans le sens de se joindre à un autre camp. Et l'armée l'a très bien compris. Car en temps de guerre, un déserteur, c'est pas quelqu'un qui fuit parce qu'il a peur, mais il est fusillé parce qu'il a déserté, donc il est passé à l'ennemi. Et c'est exactement ça le terme grec, passé à l'ennemi. En d'autres mots, ce qui trouble les chrétiens, ce qui trouble les églises, les faux docteurs, les faux pasteurs, troublent les gens et poussent les gens à commettre une trahison. Non pas une trahison envers une dénomination ou envers une doctrine, mais envers celui, dit Paul, qui vous a appelé par sa grâce. Et Paul avertit les Galates. Il avertit les Galates que si quelqu'un, même un ange du ciel, ou encore si lui-même venait à prêcher un évangile contraire autre, ou avec des ajouts, car en principe, dans ce genre d'église, on ajoute à celui qui leur avait annoncé, il précise bien, il dit qu'il soit anathème. Et le mot ici, anathème, littéralement, c'est livré à la destruction. Qu'il soit livré à la destruction. Paul devient très sérieux lorsque quelqu'un désire remplacer la vie spirituelle contenue dans la grâce par un régime d'œuvres qui sont imposées. Maintenant, comment feriez-vous la description d'un chrétien qui grandit dans sa relation avec Dieu? Pourriez-vous dire qu'il vit dans un repos confortable, fondé sur la grâce et sur la paix de Dieu? Pourriez-vous dire qu'il communique un sentiment de plénitude, conscient que toutes ses œuvres spirituelles sont accomplies en Dieu? Ou pourriez-vous dire que ce chrétien ou cette chrétienne est sans cesse en train de courir vers la perfection? Est-ce que ces conseils vous aideraient à vous confier d'abord en Jésus-Christ ou en vous-même? Voilà les questions souvent que je pose à ces personnes. Est-ce que les conseils de ce soi-disant pasteur vous aidaient à vous confier en Jésus, ou est-ce qu'ils vous aidaient à vous confier en vous-même? Et le plus important, est-ce que votre dirigeant inspirait la joie de vivre? Selon ce que Paul décrit comme étant la bonne odeur du Christ dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15, c'est cela. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Je dois représenter une bonne odeur aux yeux des autres. Mais comment est-ce que je peux être une bonne odeur devant les autres si je n'inspire que crainte, terreur? Alors, je voudrais énumérer maintenant quelques difficultés les plus connues chez les personnes qui ont été victimes d'abus spirituels. Alors, évidemment, certaines ou certains n'expérimentent pas tous ces symptômes. D'autres en expérimentent que je n'ai pas mentionné ici. Mais la majorité des victimes ont tendance à expérimenter plusieurs symptômes similaires. Et je dirais que le premier symptôme, c'est celui d'une fausse image de Dieu. Celui d'une fausse image de Dieu. On peut constater facilement comment une mauvaise compréhension de ce qu'est la croissance spirituelle peut affecter notre vision de Dieu. Oui, je désire grandir spirituellement. Mon problème est de savoir quelle vision j'ai de Dieu pour grandir spirituellement. Si ma vision de Dieu est faussée, il est évident que ma croissance sera faussée. Donc, quelle vision est-ce que j'ai de Dieu? Est-ce que je fais tous mes efforts simplement pour me garder à jour avec Dieu? Si je perçois Dieu comme un juge injuste, engagé dans un horrible marathon qui me repousse sans cesse ou qui repousse sans cesse la ligne d'arrivée, évidemment, ma notion de Dieu sera mauvaise. Quelle vision est-ce que j'ai de Dieu ? Nous avons tous et toutes grandi dans une société qui est une société judéo-chrétienne. J'allais dire qui était. Et je crois que je vais garder cette expression, ce verbe, qui était. Parce que je crois qu'on se dirige de plus en plus, mais ça c'est d'autres choses. Et combien de fois est-ce que nous avons dit, répété aux enfants, tu sais, si t'es pas sage, le bon Dieu, il va te punir. Je veux dire, que celui qui n'a jamais entendu cette expression me jette la première chaise. C'est une expression qu'on a souvent entendue. Mais le problème, il est très simple, c'est que quand vous dites à un enfant, si t'es pas sage, le bon Dieu va te punir, l'enfant grandit avec cette idée que dès qu'il va commettre une erreur, paf, Dieu va lui tomber dessus. Et le sentiment qui grandit en lui, c'est que Dieu est un Dieu qui est un Dieu père fouettard. Mais où est le Dieu de grâce ? Où est le Dieu d'amour ? Il est absent. Il est absent. Et ainsi, nous grandissons et nous vivons avec une image déformée de la personne de Dieu. Et c'est un indice d'abus spirituel. Dans ces églises, Dieu n'est jamais satisfait. Dieu n'est jamais satisfait et il continue sans cesse à fixer des objectifs de plus en plus haut. Le but ici, c'est de voir quelles sont tes limites. J'ai entendu un jour un homme me dire cela. Mon dirigeant, mon pasteur, mettait la barre toujours de plus en plus haut et quand je lui ai demandé « Mais pourquoi est-ce que tu me mets cette barre de plus en plus haut ?» Il s'est entendu dire « Ce n'est pas moi qui mets cette barre, c'est Dieu qui met cette barre de plus en plus haut parce que Dieu veut voir quelles sont tes limites. » Aux yeux de cette personne, cet homme me disait « Dieu pour moi était un Dieu sévère, c'était un Dieu vindicatif. » Et quand j'ai parlé avec lui, quand j'ai travaillé avec lui, j'ai vite compris qu'il y avait un mot qu'il fallait que j'oublie. C'était Père Céleste. Dès que j'employais le mot Père Céleste, il pleurait ou il tremblait. Parce qu'il n'arrivait pas à associer ce Père Céleste avec le Dieu qu'on lui avait présenté. Et la question, c'est celle-ci. Quel Dieu est-ce que vous aimez ce matin ? Est-ce que c'est un Dieu qui repousse sans cesse ses limites ? Si c'est le cas, laissez-moi vous dire que vous avez été abusé. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce. La grâce de Dieu est importante. Dieu est sévère. Dieu est vindicatif. Il se plaît à constater vos erreurs. Une jeune fille, en pleurant et en tremblant, faut pouvoir supporter ces cours. Quand j'étais à Strasbourg il y a quelques mois, et c'est très très difficile parce que vous avez devant vous des gens qui ont été brisés. Et cette fille avait été violée par son pasteur. Et elle me disait en pleurant que Dieu, elle avait du mal à lui faire confiance parce qu'elle croyait fermement que Dieu se complaisait à constater ses erreurs. Dieu se plaît à pointer son doigt sur vos faiblesses parce que son but, c'est de vous humilier, c'est de vous blesser. Et c'est terrible, et c'est terrible. Moi, je peux vous dire que moi qui ne dors jamais dans un avion ou dans un train, quand je reviens de ces sessions avec famille Je t'aime, je dors jusqu'à la gare de l'Est parce que je suis épuisé. C'est très très compliqué parce que pour eux, Dieu est apathique. Dieu voit des gens blessés, Dieu voit des gens maltraités, mais Dieu ne fait rien pour les aider. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cela l'obligerait à contester une autorité. Et comme c'est Dieu qui m'a placé en autorité, Dieu ne peut pas contester la place qu'il m'a donnée. Et si tu pleures, et si tu es blessé, et si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas avec moi que tu n'es pas d'accord, c'est avec Dieu. Ton problème, il est avec Dieu. Dieu dort. Dieu n'est même pas conscient qu'il y a des gens blessés, qu'il y a des gens maltraités. C'est ce que m'a dit un couple. Quand ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient vécu, je leur dis, mais est-ce que vous avez imaginé au moins une fois ce que Dieu pensait de tout cela ? Alors ils m'ont dit ensemble, oui, oui, Dieu dormait. Dans ces cas-là, Dieu dort. Je dis, mais comment vous pouvez dire que Dieu dort ? Et ils m'ont répondu, mais c'est notre pasteur qui nous l'a dit. Dieu dort. Dieu dort parce qu'il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient parce qu'il veut te voir saint. Et comme tu n'arrives pas à cet état de sainteté, Dieu, au lieu de révéler sa colère, eh ben, il préfère dormir. Voilà le discours. Et donc, Dieu est inconstant. Il est un peu comme un enfant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les humeurs de Dieu, ces humeurs varient en fonction de vos moindres manquements. Et puis on va vous dire, tu sais, Dieu, il est extrêmement saint. Et comme Dieu est extrêmement saint, je vais te donner une image. Il est comme une alarme spirituelle. Et tu sais aussi bien que moi qu'une alarme, ça se déclenche quand il y a un contraire. Eh bien, Dieu est comme une alarme spirituelle prête à se déclencher chaque fois que tu as une mauvaise pensée. Chaque fois que ce que tu fais n'est pas bien. Chaque fois que tu crois que je te veux du mal alors que je t'aime, parce que je suis ton pasteur. Et chaque fois que tu crois que je t'aime pas ou que tu as une pensée négative sur moi, Dieu déclenche son alarme. J'ai entendu un jour le récit d'un homme à qui les enseignements de la Bible avaient inculqué, tenez-vous bien, et je vous assure que c'est vrai, que le Saint-Esprit, le cœur brisé, fuyait jusqu'aux confins de l'univers chaque fois que cet homme commettait le plus petit péché. Et il se lamentait et il pleurait. Il me disait, mais comment je peux le faire revenir ? Mais tu pourras le faire revenir en faisant ceci, en faisant cela. La réalité, mes amis, la réalité, Dieu est la source de notre force. Dieu est la source de notre restauration. Il est la source de notre amour. Et c'est toujours vers lui que nous allons courir quand nous serons tentés. Lorsque nous tomberons. Alors, j'ai retrouvé un vieux chant. Peut-être que les personnes plus âgées que moi dans cette chapelle connaissent ce chant. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais chanté à l'école du dimanche, qu'on appelait à l'école le catéchisme, le jeudi. C'était le jeudi à l'époque. Mais les anciens, peut-être, le connaissent. Alors, je vous livre ce chant. Il faut être sage et ne jamais pleurer. Si tu veux voir Dieu, il ne faut pas bouder. Jésus va venir ce soir. Dans son petit livre, il regarde bien si tu es aimable ou si tu es malin. Jésus peut revenir ce soir. Il te voit quand tu dors, il te voit à ton éveil. Il sait quand tu es bon ou mauvais. Alors fais attention, Jésus voit tout. C'est quoi ce chant ? Non mais c'est quoi ce chant ? Mais c'est ce que nos parents ont chanté, hein. Alors, vous ne offensez pas, mais si nous ne voulons pas manquer de respect, parce que je pense que celui qui a écrit ce chant était animé de bonnes intentions, en tout cas, je l'espère, mais Combien d'églises enseignent que notre place au ciel sera déterminée par le nombre de bonnes actions que nous aurons accomplies ici sur la terre. Combien de nos prières sont fausses? Combien de fois est-ce que nous manipulons la doctrine et Dieu lui-même par une théologie qui est complètement faussée? Quand j'étais jeune, sur l'air de When the Saints Go Marching, nous chantions « Quand les élus de notre Dieu viendront chercher les bienheureux ». Montrez-moi dans la Bible où c'est les élus de Dieu qui viendront nous chercher. Quand nous prions et que nous disons « Mais reste avec nous, Seigneur ». Est-ce que Jésus n'a jamais dit « Je suis avec vous tous les jours » Alors pourquoi est-ce que nous lui demandons de rester? Alors on est biblique. C'est les disciples d'Emmaüs. « Reste avec nous, Seigneur, le jour est sur son déclin ». Vous connaissez le texte, hein? Mais regardez le contexte. Jésus est en chemin, il leur explique. Les disciples d'Emmaüs arrivent à l'auberge et Jésus continue son chemin. Alors les disciples d'Emmaüs disent « Reste avec nous, Seigneur, le jour est sur son déclin ». Et nous, nous sommes bibliques, alors nous reprenons le texte en disant « Reste avec nous, Seigneur ». Mais dans l'histoire, s'il y en a un qui risque de se barrer, si vous me permettez l'expression, parce que ça m'énerve. Hein ? C'est vrai, pardon pour si je vous choque, mais c'est agaçant. « Reste avec nous, Seigneur ». Si moi, je ne suis pas chrétien, je me dis « Reste avec nous, Seigneur, tu peux se barrer. Reste avec nous. » Ok ? Je crois que dans cette histoire, s'il y en a un qui risque de se barrer, c'est moi. Donc il serait beaucoup plus sage de dire « Seigneur, dans ta grâce, permets que je ne m'éloigne pas de toi, parce que je veux rester avec toi. Dans cette histoire, c'est moi qui pars, toi, tu es toujours là. » Ça, c'est biblique. Et ben voilà. On prend un texte, on l'arrache du contexte et on s'en sert comme prétexte. C'est comme « Seigneur, nous te remercions parce que ta parole nous dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, tu es au milieu d'eux, donc tu es au milieu de nous. » C'est quoi cette histoire? Relisez le contexte. Qu'est-ce que Jésus dit? Si tu as quelque chose contre ton frère, tu vas le trouver. S'il n'est pas d'accord, tu vas trouver trois frères. S'il n'écoute pas les trois, vous allez voir l'église. Et si l'église est d'accord, mettez-le dehors. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Regardez le contexte, c'est un contexte de discipline. Mais nous, on prend le texte en disant, on n'est pas nombreux, mais Dieu est avec nous, parce que là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc il est là. Seulement, moi, le problème, c'est que moi, je ne suis pas chrétien. Et moi, je vous écoute. Et je me dis, là où deux ou trois, ça veut dire, si je suis tout seul, il n'est pas là. Il faut être au minimum deux. Bah, c'est logique ou pas? Mais là encore, Anne-Caroline, là encore, on prend un texte, on l'arrache du contexte et on s'en sert comme prétexte. Alors, ça veut dire quoi? Attention à l'obsession des accomplissements religieux. Il y a, je crois, des enseignements qui nous sont donnés et nous devons faire très très attention. Moi, je suis effaré, pour ne pas dire écœuré, par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, chrétien. J'ai reçu cette semaine un fascicule, tenez-vous bien, pour une conférence à Paris qui propose aux chrétiens d'adhérer à une méthode pour se rapprocher de Dieu. Alors j'ai téléphoné, non pas pour m'inscrire, parce que ça ne m'intéresse pas, mais pour savoir. Ben, vous serez étonné de savoir que la conférence, elle est complète. 1500 personnes se sont inscrites pour adhérer à une méthode pour se rapprocher de Dieu. Nous voulons tous grandir dans notre relation avec Dieu. Mais la question, c'est comment est-ce que nous allons grandir dans notre relation avec Dieu? C'est une méthode? C'est pas une méthode, notre relation avec Dieu. Des gens ont quitté des églises pour mettre en pratique des méthodes. Et c'est très, 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 très dangereux. Car nous sommes, dans nos églises aujourd'hui, très friands des modes. Alors vous avez tous entendu parler de cette fameuse mode qu'il y avait il y a 20 ans, qui a fait fureur en France, la fameuse bénédiction de Toronto, où tout le monde quittait les églises pour se rendre dans ces églises où on pratiquait les bénédictions de Toronto. Mais c'est effarant. Moi, je suis allé voir une fois. Mais c'est effarant. Comment est-ce que des gens peuvent dans le couloir imiter le poulet ou le lapin ou même l'éléphant? Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Je me disais, mais tu fais quoi là? Mais je suis béni, j'ai le Saint-Esprit. Attends, depuis quand le Saint-Esprit nous fait ressembler à une poule ou à un lapin? Et j'ai vu des hommes, des femmes dans les couloirs qui étaient là. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Et puis on a laissé tomber cette bénédiction de Toronto avec la bénédiction de l'or. Vous avez entendu parler de celle-ci? Oui, certains la connaissent. Il suffisait d'ouvrir la bouche au ciel et Dieu vous mettait des dents en or. Et des gens ont quitté des églises pour rejoindre ces communautés-là. Et nous sommes tous et toutes friands de ce genre d'église. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de suivre une méthode ou est-ce que c'est de suivre Dieu? Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Hein? Si, l'apôtre Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne plairais pas à Dieu. Et l'idée, c'est de savoir si on veut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein? Alors, je vais terminer parce que malheureusement, il ne me reste plus que quelques minutes. Je voudrais, juste en terminant, vous communiquer trois pensées. Trois pensées qui me semblent importantes. Premièrement, si vous vivez des situations, si vous avez vécu cette situation, je dirais recherchez de l'aide et du soutien. En dépit de votre décision de demeurer ou de quitter votre système religieux actuel, l'idée c'est de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Ce n'est pas mal de chercher de l'aide. Je répète, ce n'est pas mal de chercher de l'aide. J'ai entendu un jour une fille me dire, on m'a toujours appris. Alors, à ma question, c'était, mais pourquoi est-ce que tu as attendu si longtemps pour venir voir Famille, je t'aime? Et là, sa réponse a été claire. Elle dit, mais parce que mon dirigeant me disait toujours que aller chercher de l'aide ailleurs que chez lui, c'était le tromper et c'était reconnaître qu'on était faible. Mais demander un conseil à quelqu'un, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Et donc, prenez soin de vous. Cherchez de l'aide, ce n'est pas mal de chercher de l'aide. Si après toutes vos réflexions, vous décidez de quitter ce système, qui est à votre avis trop abusif, il me semble que tout deviendra clair si vous vous posez les bonnes questions. Deuxièmement, écoutez Dieu. Écoutez Dieu et faites ce que Dieu vous dit de faire. Si vous avez été victime d'un abus spirituel, ça sera très 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 difficile pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez été habitué à vous taire. Vous avez été habitué à écouter celui qui parlait au nom de Dieu. Vous avez été réprimandé. Et je vous passe des témoignages. Je pense, tiens là, juste. Je pense juste à cette femme qui me disait, un jour j'ai été réprimandée et mon pasteur m'a demandé de prier jusqu'à 3 heures du matin alors qu'elle commençait à 6 heures le matin. Donc elle se levait à 5 heures. Il m'a demandé de prier jusqu'à 6 heures du matin. Je lui ai dit, mais quelle faute t'avais fait? Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? J'ai demandé à Dieu. Je lui ai dit, comment tu peux demander à Dieu? C'est à moi que tu dois demander. Mais t'es qui, toi, pour demander à Dieu? Dieu n'écoute que son représentant. Et cette femme avait été blessée parce qu'elle avait osé demander à Dieu ce qu'il en pensait. Mais mes amis, moi, je vous dis, demandez à Dieu ce qu'il en pense. Parce que Dieu vous aime et Dieu vous écoutera. Écoutez Dieu. Et j'aimerais terminer en citant ce passage qui témoigne de la façon dont les disciples ont réagi face à l'oppression. Il est écrit dans Actes 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsque vous êtes victime d'abus spirituels, allez vers des amis. Allez vers des amis qui vous comprennent, Racontez-leur ce qui s'est passé. Racontez-leur ce qui s'est produit. Cherchez de l'appui. Et puis écoutez cette prière de l'Église du premier siècle. Écoutez-la. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous. Je suis conscient que je n'ai pas fait tout le tour, puisque avec Famille Je T'aime, c'est quand même 5 heures de cours. Là, on est resté à même pas une heure. Mais en gros, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et finalement, nous allons terminer par la prière avant de laisser la parole à Manu. Nous prions. Dieu, nous te prions d'accorder ton attention à ceux et à celles qui ont donné leur vie pour te servir et qui aujourd'hui subissent l'intimidation et l'abus. Même au sein de leur situation, fortifie-les, Seigneur, pour qu'ils puissent continuer à dire la vérité. Garde ta main sur ton peuple, afin de leur apporter la guérison et le repos. Tu connais toute blessure, Seigneur. Tu nous connais parfaitement, et nous voulons te le demander au nom de Jésus. Amen.
Un grand merci à Jean-Claude pour ce temps. Et pendant que vous avez entendu tout cela, peut-être